Bonjour, ici Jan Steele, alias La Gousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Manger sans gluten, intelligemment. En 1977, quand j'ai été diagnostiquée de la maladie cœliaque, une alimentation sans gluten pouvait presque se résumer à l'éviction du pain, des céréales et des pâtes. En vrai, c'était à peu près la totalité des conseils qu'a reçu ma mère de la part des médecins. Après tout, c'était une époque où les repas familiaux étaient véritablement faits maison, de A à Z. Il n'y avait pas de cantine scolaire, là où j'étais en tout cas. Les sorties au restaurant étaient assez rares. Et dans les restaurants, les employés avaient une compétence beaucoup plus fiable et codifiée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'est un peu complexifiée. Tout d'abord, nous faisons face aujourd'hui au couteau à double tranchant des produits sans gluten. À mon époque, il n'existait vraiment pas grand-chose. Et ce qui existait n'était vraiment pas très bon. Du coup, une alimentation sans gluten se résumait souvent au fait de manger des aliments bruts. Ma mère disait souvent aux parents de mes copines lorsque j'étais invitée chez eux « Donnez-lui du riz, des carottes et de la viande. » Car il est vrai que la grande majorité des aliments bruts passent. Et là où il commençait à y avoir problème, c'était dans les épices, des sauces et tout ce qui pouvait être épaissi. Au final, je mangeais souvent plus sainement que ceux autour de moi qui avaient une alimentation classique, car moi, je devais me limiter à des aliments reconnaissables. Aujourd'hui, une personne nouvellement diagnostiquée qui souhaite grosso modo manger comme avant, en remplaçant simplement les produits avec gluten par des produits sans gluten, peut presque le faire. C'est devenu possible grâce à la diversité des produits industriels sans gluten disponibles sur les étagères de nos supermarchés. Mais est-ce désirable? Absolument pas. Dans ce cas de figure, il y aurait de fortes chances que l'alimentation sans gluten soit encore plus pauvre en nutriments qu'elle ne l'était avant. Dans ce cas de figure, il ne faut donc pas se surprendre quand la santé ne se rétablit pas. Quels seraient donc mes conseils pour une personne voulant adopter une alimentation sans gluten, mais intelligemment? Les voici. Numéro 1. Revenir aux aliments purs et à de la nourriture réelle reconnaissable. Ma mère disait toujours « Just give her real food ». Il est vrai que si l'on se limitait aux aliments que l'on peut acheter dans un marché de produits frais ou aux aliments qui poussent dans un potager, agrémentés de fruits de mer, une bonne coupe de viande ici et là et quelques œufs, notre alimentation serait très dense en nutriments et naturellement sans gluten. Quelque part, nous nous sommes nous-mêmes compliqués la vie. Ayant découvert le plaisir des produits boulangers tels que le pain, nous avons aussi découvert la facilité des produits comme les céréales, les muffins, les cracottes, les pâtes, les gâteaux et les biscuits. Pire encore, nous avons découvert la facilité des mix à gâteaux, des sauces sans poudre, des cubes de bouillon, etc. Et si autrefois ces produits ne servaient que de béquilles pour faciliter nos routines lorsque nous étions à la bourre, aujourd'hui, le rythme global de la vie pour bon nombre d'entre nous ne peut être caractérisé que de bourre permanente. Aujourd'hui, trop souvent, nous ne marchons plus qu'avec des béquilles et nous n'avons que rarement appris à marcher sans. Aussi, l'industrie agroalimentaire a découvert les nombreuses propriétés qu'offre le gluten dans une préparation. C'est un texturisant, un émulsifiant, un liant, un épaississant, et j'en passe. Ça, plus le fait que les produits céréaliers sont omniprésents dans une alimentation occidentale, le résultat est que le gluten se trouve dans de plus en plus d'aliments, non pas parce que cela améliore la qualité nutritionnelle de ces produits, mais parce qu'ils remplacent un autre ingrédient qui aurait coûté plus cher sans sacrifier la texture ou le goût. Le choix industriel est donc très souvent d'appauvrir la qualité nutritionnelle d'un aliment pour permettre une plus grande marge de profit. Mais cela vous va-t-il? Numéro 2. Réévaluer le rôle du petit-déjeuner dans son alimentation pour en identifier une solution saine et satisfaisante. En Occident, le petit-déjeuner est devenu un festival de sucre. Bon, ce n'est pas toujours du sucre pur tel que ce l'était parfois au Canada avec les céréales en boîte sur lesquelles nous versions du lait écrémé et parfois même du sucre blanc. Mais s'il n'y a que trois grandes catégories de molécules dont le corps a besoin, les protéines, les lipides et les glucides, la grande majorité de ce qui passe aujourd'hui pour un petit déjeuner se situe carrément dans la catégorie des glucides. Pas étonnant alors que nous ayons aussi adopté la pause café vers 10 heures du matin. S'étant infligé un pic du taux de sucre sanguin au petit déjeuner, nous nous retrouvons tous en hypoglycémie une heure plus tard. Le phénomène des nombreux pains et rien d'autre au petit-déj m'a sauté aux yeux lors d'un passage en ville pour prendre le train la semaine dernière. Les seules options que j'ai réussi à trouver en version sans gluten comme petit-déj de dépannage, c'était un sachet de fruits secs au point relais et une orange au comptoir Paul. 10 euros en tout avec une tasse de thé, mais c'était ça, ou des bonbons, ou des macarons. Si l'on considère que nos repas sont censés fournir à notre corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner tout au long de la journée, nous sommes complètement à côté de la plaque quand il s'agit du petit déjeuner. Notre corps n'a pas besoin de sucre. Il a besoin d'énergie, certes, mais il a surtout besoin de nutriments, des protéines, des lipides, un peu de glucides, des vitamines et des minéraux. Des calories dépourvues de nutriments, surtout à répétition, sont un stress pour le corps. Si le petit déjeuner est notre première opportunité d'offrir à notre corps ce qu'il lui faut pour la journée, il faut en profiter. Il faut réfléchir à des solutions saines, mais simples, qui permettent de démarrer la journée du bon pied. Numéro 3. Apprendre à cuisiner, à boulanger et à pâtisser sans gluten. Et éviter les produits étiquetés sans gluten, sauf dans des cas très exceptionnels. Forte de plus de 40 ans de vie sans gluten et ayant pas mal voyagé, je peux très honnêtement vous dire sans exagération qu'une version sans gluten de tout est possible. Au fil de ma vie, même si ce n'était pas vraiment mon habitude alimentaire, j'ai goûté à des pains de toutes sortes, des croissants et d'autres viennoiseries, des pâtisseries comme les éclairs et les choux, et les desserts plus classiques comme des gâteaux et des tartes. Tout est possible, vraiment. Le fait d'être diagnostiqué cœliaque ne doit pas vous conduire donc à sombrer dans la dépression. Si vous passez les étapes du deuil en pensant à votre aliment confort préféré, arrêtez. Il y a sûrement moyen d'en faire une version sans gluten. Cela demandera juste un petit savoir et un petit savoir-faire. C'est exactement pour cette raison que j'ai ouvert ma cuisine pédagogique 100% sans gluten. Je ne comprendrai jamais comment les gens, les Français en plus, peuvent accepter de remplacer leur bonne baguette toute fraîche, encore chaude de la boulangerie du coin, par des mauvaises versions sans gluten vendues sous vide au grand rayon. Stop! Vous ne serez que déçus. L'industrie agroalimentaire a bien sûr compris qu'il y a un marché de plus en plus important dans les produits sans gluten. On voit bien la gamme de produits s'élargir tous les ans. Mais à mon avis, la qualité au niveau du goût et de la texture de la grande majorité de ces produits reste bof. Pire encore, la qualité nutritionnelle de ces produits est très très variable. La maladie cœliaque est un diagnostic qui nécessite une alimentation stricte sans gluten à la vie. Le temps que vous mettriez à élargir votre compétence en cuisine vous servira donc jusqu'à la fin de vos jours. C'est un investissement sur votre personne et sur votre santé. Bref, prenez le temps. Le retour sur votre investissement de temps en vaudra largement la chandelle. Il existe des baguettes sans gluten sous vide, mais il existe aussi des recettes de baguettes sans gluten. Et pour moi, cela va de soi qu'un produit vendu sous vide, conçu pour être pérenne sur une étagère des mois durant avec une date de péremption incroyable, ne pourra jamais se comparer à un produit frais qui sort du four. Numéro 4. Apprendre à lire les étiquettes. Ce conseil va de pair avec celui d'apprendre à cuisiner. car plus nous sommes au courant de ce que nous avalons, moins il y a de risques. Il en suit que plus nous cuisinons, plus nous savons reconnaître les ingrédients qui sont légitimes dans un produit et ceux qui s'y trouvent par une torsion, pour ne pas dire une arnaque, culinaire. Lorsque nous faisons un yaourt maison, par exemple, nous prenons un lait de qualité et des ferments lactiques. Point. Ensuite, si l'on souhaite parfumer notre yaourt, nous pouvons rajouter des morceaux de fruits, une purée de fruits ou, à la limite, du miel, du sirop d'érable ou un sucre. Mais rien de plus n'est nécessaire. Mais avez-vous déjà lu les étiquettes de yaourt de nos jours? On y trouve toutes sortes d'ingrédients qui sont là, non pas parce qu'ils font partie de la recette, mais parce qu'une petite triche culinaire permet de maintenir le produit final tout en minimisant le coût de fabrication. De l'amidon pour épaissir, des arômes pour parfumer et des édulcorants pour sucrer. Non, merci. Mais c'est seulement si nous savons faire plus sobrement que nous pouvons nous interroger sur la présence de ces ingrédients pour tricher. Numéro 5. Identifiez un ou deux restos où vous pouvez manger sans risque. Il est vrai que l'idée de passer d'une alimentation moderne classique, où l'on pouvait acheter à la volée des trucs à manger un peu partout à tout moment, à une alimentation stricte sans gluten où tout est fait de sa propre main, ça peut paraître lourd. Si nous en sommes venus à aussi souvent sous-traiter la tâche de nous alimenter, c'est pas pour rien. Cuisiner demande du temps, de l'organisation, il nous faut des ingrédients prépositionnés dans nos placards, des outils appropriés, je comprends. Nous avons tous besoin d'une soirée off des routines de la cuisine. Et il y a un réel plaisir à manger au restaurant. Prenez le temps donc d'identifier des prestataires qui sauront combler vos besoins et devenez-en leur nouveau client le plus fidèle. Pour ce faire, je recommande l'identification d'un ou deux prestataires dans la restauration où vous avez confiance qu'ils comprennent votre situation. Par là, j'entends deux choses. D'abord, des prestataires qui œuvrent dans une cuisine dédiée sans gluten, tels ceux que je mets en lumière dans différents épisodes de ce podcast. Ou deux, des prestataires avec qui vous pouvez réellement discuter de vos besoins. Que ce soit chez le boucher, dans un café, dans un bistrot ou dans un resto, vous ne pourrez plus commander à l'aveugle en espérant ne pas finir malade. Comme dans tous les métiers, bon nombre d'employés dans la restauration sont parfaitement rigoureux. Mais comme dans tous les métiers, d'autres le sont moins. Si vous ne signalez pas de manière confiante et proactive votre besoin d'un plat sans gluten, vous risquerez d'être contaminé. Point. L'un de mes plus grands plaisirs en créant ce podcast, c'est de pouvoir rencontrer et échanger avec d'autres prestataires 100% sans gluten en France. Une bonne dizaine de collègues ont déjà répondu oui à mon invitation de participer et deux interviews sont déjà faites. Pour chaque interview, je me déplace vers eux pour découvrir leur lieu de travail. J'y mange et nous discutons, micro ouvert, de leurs projets, de leurs difficultés et leurs satisfactions ou de tout autre sujet utile pour la communauté. Un lien vers la liste de ces endroits que je souhaite mettre en lumière se trouve dans les notes de l'épisode. Jetez-y un coup d'œil pour voir s'il n'y en a pas un près de chez vous. Voilà donc pour aujourd'hui. En attendant un prochain épisode, portez-vous bien. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten ? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr/podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah, ah.